Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir à tous. Suite de notre semaine de débat autour des grands enjeux de la présidentielle, au menu de ce soir, l'économie avec une grande priorité pour le prochain chef de l'État, la lutte contre le chômage. À ce jour, la France compte plus de 3,5 millions de sans emploi en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, un taux qui flirte avec les 10% de la population active. Comme sur la politique européenne, comme sur la politique éducative, les solutions proposées par Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont diamétralement opposées en matière d'emploi. Exemple, quand Emmanuel Macron souhaite adapter le code du travail à la mondialisation et à la révolution des nouvelles technologies, Marine Le Pen se positionne à l'opposé en garante des droits des travailleurs français. Dans le même esprit que Donald Trump, la candidate française du FN veut défendre l'industrie française face à la concurrence et à la menace du libre-échange. Alors économie, le duel des programmes, c'est notre grand débat de ce soir. Bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Philippe Murer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous étiez déjà là lundi soir pour nos auditeurs assidus. Vous êtes conseiller économique de Marine Le Pen pour le Front National. Donc en face de vous, David Amiel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller économique d'Emmanuel Macron pour En Marche. Alors je voudrais commencer, messieurs, par une opposition assez symptomatique des programmes que vous représentez ce soir. Il en a d'ailleurs été question hier soir dans le débat, celle du droit du travail. Alors David Amiel, Emmanuel Macron veut aller encore plus loin que la loi El Khomri. Il promet d'ailleurs une loi, alors qu'on dit un peu XXL, dès l'été, si d'aventure il était élu dimanche. Que contiendrait cette loi et en quoi elle lutterait contre le chômage?
Écoutez, je crois que ce que permet cette loi, c'est d'abord d'aller au bout du monde nouveau. Et quel est ce monde nouveau? C'est un monde où il y a des incertitudes, c'est-à-dire où la croissance économique est devenue beaucoup plus incertaine, il y a des crises récurrentes, il y a de la concurrence étrangère, des nouveaux concurrents qui surgissent, et donc un besoin des entreprises de s'adapter rapidement pour pouvoir créer de l'emploi. Est-ce qu'on peut croire aujourd'hui qu'une boulangerie, qu'une PME peut créer de l'emploi avec les mêmes règles que celles qui s'imposent au CAC 40? Non. Et donc que permet la réforme du code du travail proposée par Emmanuel Macron? C'est de trouver des compromis au plus près du terrain pour adapter les règles, mais à chaque fois avec un critère, avoir l'accord majoritaire des salariés.
Donc concrètement, ça veut dire changer les règles des modifications des lois, des règlements au sein de l'entreprise, favoriser les accords d'entreprise, les accords de branche?
Exactement. C'est-à-dire concrètement, vous avez désormais, à part le socle des principes essentiels, salaire minimum, égalité homme-femme, qui doivent bien entendu être garantis de manière absolue dans la loi, le reste peut être négocié au niveau de l'entreprise. Si ce n'est pas au niveau de l'entreprise, au niveau de la branche, mais à nouveau avec un critère, avoir l'accord majoritaire des salariés.
Donc donner plus d'autonomie, c'est finalement de la même chose dont on a parlé hier en matière d'éducation. C'est une prolongation, un principe qui est un petit peu dans tout votre programme. Philippe Murer, alors au contraire, Marine Le Pen veut abroger la loi El Khomri, hein, qui serait finalement un petit peu le prélude de ce que propose Emmanuel Macron. Pourquoi? En quoi elle l'empêche de lutter contre le chômage? Est-ce qu'il n'y a pas effectivement une nécessité de moderniser des lois face à la modification de la structure de l'emploi, par exemple?
Alors, il y a un problème par rapport au chômage, mais il y a aussi un problème puisqu'on voit que Emmanuel Macron a été hué à LB à cause de cette loi travail, et il veut faire passer les lois travail par ordonnance pour plus précariser. Et nous, il y a deux principes. Il y a un principe économique. Si on regarde, on voit que ce monde nouveau dont vous nous parlez, c'est un monde où il y a 0,6% de croissance par an à peu près depuis 10 ans en France. Donc il n'y a pas de croissance. Donc effectivement, la croissance est totalement famélique, il y a très peu de création d'emplois, et en fait, c'est des créations de petits jobs ubérisés où les gens gagnent même pas le SMIC en prenant des risques. Et comment vont-ils acheter? Comment vont acheter un appartement? Comment vont-ils pouvoir louer un appartement pour leur famille? En fait, c'est un modèle qui ne fonctionne pas.
Mais alors, sur les propositions en matière de modification du code du travail?
Aucune, à part l'abrogation de la loi El Khomri, puisque ça la concurrence, nous ce qu'on dit, c'est qu'effectivement le problème, c'est détricoter le droit du travail. Puisqu'en fait, il va y avoir une concurrence des entreprises qui vont pouvoir détricoter ce droit du travail par un référendum, qui vont concurrencer dans leur branche les autres entreprises, et on va avoir donc un détricotage petit à petit avec une concurrence déloyale à l'intérieur de la France, et pour nous, c'est une société fratricide. C'est ce qu'on voit dans les taxis et VTC, où les taxis et les VTC se mènent une lutte fratricide, et quand vous discutez avec eux, eh bien, en fait, personne n'est content, ni les taxis ni les VTC.
Alors dans son programme, Marine Le Pen explique qu'elle veut décliner la priorité nationale en matière d'emploi, avec la création notamment d'une taxe additionnelle sur l'embauche des salariés étrangers. Alors ça concernerait tout de même 1 700 000 personnes qui travaillent sur le sol français, qui ne sont pas de nationalité française. Est-ce que ce n'est pas contraire au droit européen? Est-ce que vous ne craignez pas des mesures de rétorsion? Est-ce que surtout ça ne peut pas nuire à la compétitivité, à l'attractivité française?
Alors déjà, la compétitivité, vous savez, on peut la faire effectivement par ces problèmes de droit du travail, la baisse des salaires ou des choses comme ça, mais avec une monnaie 20% moins chère, vous avez immédiatement 20% de compétitivité de plus, et c'est beaucoup mieux.
Vous savez comme moi qu'une baisse de 20% de la monnaie, c'est une baisse des salaires. C'est la même chose.
Non, pas du tout.
Dévaluer la monnaie, c'est baisser les salaires.
Alors si je me permets, parce que c'est un élément de langage de l'équipe Macron, effectivement, et voilà, je vais vous dire, je parle aux auditeurs. Est-ce que lorsque l'euro a baissé entre 2014 et 2015, ils ont vu une baisse de leur pouvoir d'achat de 20%? Absolument pas, alors que leur monnaie, l'euro, s'est même déprécié de 25%. Et quand il avait augmenté de 50% la période précédente, il n'y a pas eu une hausse de pouvoir d'achat du tout équivalente, donc c'est un impact très minime sur le pouvoir d'achat.
Monsieur Muller, quand vous dévaluez l'euro aujourd'hui, vous le dévaluez par rapport à tous les pays hors Union Européenne, hors zone euro, c'est-à-dire hors nos principaux partenaires commerciaux. Le jour où vous dévaluez par rapport au reste de la zone euro, le calcul est très simple à faire. Vous avez une dévaluation de 20%, nous avons des importations qui représentent 25% du PIB, vous avez une perte de 5% du pouvoir d'achat. C'est exactement ce que vous proposez, une baisse de 5% des salaires. Vous savez, il y a deux manières, dans la mondialisation, il y a deux manières d'être compétitif. La première, c'est de produire mieux que les autres, avec des salariés mieux formés, des biens de meilleure qualité. C'est le projet d'Emmanuel Macron. Vous avez un deuxième option, qui est de dire que de toute manière, on n'y arrivera jamais, et que la seule chose qu'on a à faire, c'est de déprécier notre monnaie, baisser nos salaires, et espérer s'en sortir ainsi dans une course folle vers l'abîme.
Alors, je vais vous dire pourquoi
c'est que. Et fermer les frontières en matière d'emploi, parce que c'est quand même important, Philippe Murer.
Alors, je vous réponds sur ça, mais je dois répondre là-dessus.
Allez-y.
Je dois répondre là-dessus, parce qu'en fait, c'est une vision purement théorique. Je vais vous donner, par exemple, l'exemple de Peugeot face à BMW. BMW, effectivement, a pu construire une marque sur le très long terme, de qualité. Ils ont mis 40 ans pour cela. Pendant 20 ans, ça a marché moyennement, et maintenant, ils ont une marque mondiale absolument ultra puissante. En face de ça, Peugeot, si on leur donne pas un bol d'air, Peugeot et Renault, ils ne pourront jamais faire ça. Donc nous, on donne un bol d'air et derrière, on fait cette politique de qualité, on va vers cette politique de qualité. Mais pour cela, il faut avoir des entreprises qui sont prospères. Or, pour le moment, elles ne sont pas prospères, elles ne sont pas compétitives par rapport à l'Allemagne.
J'apprécie beaucoup l'exemple que vous prenez de BMW. Est-ce que vous savez quelle est la part dans la valeur d'une BMW vendue en Chine qui vient de France? C'est un tiers. La vérité, c'est que BMW, si l'Allemagne avait choisi la stratégie qui est celle du Front National, c'est-à-dire celle du protectionnisme, aurait brisé ce qu'on appelle techniquement, pardonnez-moi, les chaînes de valeur. C'est-à-dire l'idée qu'un pays peut, en important des biens d'autres pays, en commerçant, atteindre cette mondialisation de qualité que l'Allemagne a réussi à atteindre. L'exemple de BMW était très bien choisi. Avec le programme du FN, ça n'aurait jamais été possible.
On a perdu 1 million d'emplois industriels depuis qu'on a l'euro depuis 15 ans, donc on voit très bien que le modèle que vous voulez mettre en place, qui est cette continuation, a complètement échoué.
Le taux de chômage existe depuis 30 ans, il n'y avait pas l'euro à l'époque.
Alors David Amiel, juste puisqu'on parle de compétitivité, je voudrais quand même parler d'une des propositions d'Emmanuel Macron, parlons des programmes, qui est de baisser l'impôt sur les sociétés à 25% dans la moyenne européenne. Ça, c'est pour restaurer de la compétitivité.
Vous savez, il y a deux choses qui sont très importantes à faire. La première, c'est de s'assurer que nos entreprises luttent à armes égales dans la mondialisation. Aujourd'hui, nos entreprises sont beaucoup plus taxées que leurs voisines européennes. Pour ça, une mesure très simple, nous mettons l'impôt sur les sociétés à la moyenne européenne, 25%. La deuxième chose, c'est qu'il faut évidemment s'assurer qu'au sein de l'Union européenne, il y ait une convergence de l'impôt sur les sociétés pour éviter que cette course ne se fasse vers le bas. Ce sont sur ces deux chantiers qu'Emmanuel Macron agira. Il est bien évident que si on sortait de l'Union européenne, et on voit que c'est le chemin que les Britanniques ont semblé choisir à un moment, la seule chose qui nous resterait pour essayer de survivre, c'est la course vers le bas.
Il y a aussi cette notion de stabilité financière. Là aussi, c'est pour aller chercher les investisseurs, pour qu'ils investissent en France, sans se dire la loi va changer tous les 2-3 ans.
Absolument, je crois que c'est quelque chose sur lequel on peut être tous d'accord, qui est que les entreprises subissent depuis des années et des années une instabilité fiscale croissante, où les gouvernements passent leur temps à faire et à défaire, non seulement ce que leurs prédécesseurs ont fait, mais ce qu'eux-mêmes ont fait. Et donc on s'engage plusieurs fois un grand sujet fiscal. Prenez l'exemple de l'impôt sur les sociétés. Notre ligne est claire, on n'y touchera pas, on ira sur cette trajectoire de 25%.
Et il y a aussi le crédit impôt recherche qui est très prisé par les investisseurs étrangers, c'est ça ?
Le crédit impôt recherche sera absolument sanctuarisé.
Sur les 5 ans ? Sur si d'aventure Emmanuel Macron est élu dimanche. Philippe Murer, des réactions à ce que vient de proposer David Amiel, par exemple la sanctuarisation fiscale, est-ce que ça c'est pas une idée que reprend Marine Le Pen ou
quelle... Déjà je vais vous dire, mais en un mot, parce qu'après on va s'éterniser sur des petites choses, l'harmonisation fiscale dans l'Union Européenne est impossible puisque l'Union Européenne comprend le Luxembourg, l'Irlande et la Hollande qui sont des paradis fiscaux qui vivent de ça, notamment uniquement pour le Luxembourg, donc c'est complètement irréaliste. Mais vous voyez, on est en train de s'enliser dans ce débat économique.
Des paradis fiscaux, y compris la Suisse, avec les échanges automatiques d'informations.
Ne parlez pas d'enlisement, vous êtes là tous les deux pour exposer vos programmes et vous débattez. Philippe Murer.
On est en train de parler que de micro-choses qui agissent très peu sur l'économie, des tricotages du droit du travail, de fiscalité, un peu de formation d'ailleurs. Emmanuel Macron dit qu'il va mettre 3 milliards d'euros de formation, donc 10% de plus qu'aujourd'hui, ça va révolutionner le monde. C'est pas ça qui va changer ça, 3 milliards par an.
Alors et qu'est-ce
donc,
que c'est
ce qui va changer le monde,
dites-nous.
C'est d'avoir des carnets de commandes. Les entreprises, elles embauchent, je vais vous dire, et vous le savez très bien chez RFI ou dans n'importe quelle entreprise, quand elles ont des carnets de commandes et qu'elles ont besoin de main d'œuvre. Et pour ça, nous, on a une vraie politique de croissance avec 1,7 million d'emplois qu'on va créer. Pourquoi ? Parce qu'on aura une monnaie moins chère pour la compétitivité. On va avoir une commande publique réservée aux entreprises françaises. Alors, à l'heure actuelle, on est ouvert au monde entier. On va faire comme les Américains avec le Buy American Act. De la même manière, on va faire la défense du fabriqué en français.
Mais est-ce que ça, c'est possible à mettre en place dans l'Union Européenne ? Est-ce que finalement, les 27 vont réussir à négocier ?
C'est pour ça que tout ce projet très ambitieux de croissance, et ça explique pourquoi on veut négocier tout ça dans l'UE. L'autre chose, c'est la défense du fabriqué en France.
Sauf qu'il va falloir que tous les autres soient d'accord avec vous.
Oui, mais je veux dire, s'ils ne sont pas d'accord, on fera un référendum. Mais si vous voulez, la défense du fabriqué en France, chaque Français, quand il ira dans son magasin Fnac, Darty ou sur Internet, verra de façon hyper lisible, est-ce qu'il est fabriqué en France, est-ce qu'il est fabriqué en Chine, fabriqué en Pologne.
D'accord, donc changement de monnaie, commande publique.
Voilà, mais il y en a encore deux autres importantes. Un énorme effort pour l'innovation, parce qu'on a un gigantesque programme d'innovation avec 32 milliards d'euros pour le capital risque. Comment ? C'est pas de l'argent de l'État, c'est 2% de l'assurance vie qui, avec l'avantage fiscal, iront vers l'innovation. Et donc, des primes de pouvoir d'achat pour faire la demande. Donc, vous voyez, on a un programme complètement équilibré d'offres et de demandes et extrêmement ambitieux.
Et le quatrième point ?
Le dernier point, allègement de charges aussi sur les PME.
Vous avez un point commun, alléger les charges, alléger le coût du travail pour faciliter l'embauche. David Amiel, ça fait partie des engagements d'Emmanuel Macron.
Tout à fait, c'est un de ses premiers engagements en matière économique. C'est une baisse de charges, 1800 euros par an au niveau du SMIC, 10 points. Vous avez ensuite 6 points jusqu'à 2 SMIC et demi. Je pense qu'il faut quand même aller plus loin que ça. C'est-à-dire que vous avez la baisse des charges, mais il y a également... parlait de ce qui concerne les marchés publics, il est évident qu'il ne faut pas que l'Europe s'impose des choses que les autres ne s'imposent pas. C'est pour ça que le Buy European Act est dans le programme d'Emmanuel Macron. Les marchés publics...
C'est pour la comparaison avec les États-Unis que faisait Philippe Murer.
Tout à fait. Donc nous avons une approche très pragmatique de la mondialisation qui est de dire que nous devons lutter à armes égales avec les autres et donc ne pas s'imposer ce que les autres ne s'imposent pas. Le problème, c'est que pour lutter à armes égales contre les États-Unis et contre la Chine, il faut le faire avec un marché de 500 millions de consommateurs et pas avec un marché de 60 millions.
Et alors, il y a aussi une idée intéressante, un peu novatrice chez Emmanuel Macron, c'est la création d'un droit à l'erreur pour favoriser l'innovation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, David Amiel ?
Eh bien, concrètement, ça veut dire que l'administration ne sera plus d'abord là pour sanctionner, mais pour accompagner. Et que donc, si un chef d'entreprise se trompe dans l'exercice de ses fonctions de bonne foi, sur quelque chose qui ne met pas en cause, évidemment, la santé ou la sécurité des personnes, alors il ne sera pas sanctionné par l'administration cette première fois. C'est cela, le droit à l'erreur. C'est un symbole et une mesure très efficace, très concrète de la manière dont l'administration ne doit plus être une machine à sanctionner de manière tatillonne les chefs d'entreprise, ce qui est insupportable pour la plupart d'entre eux et à juste titre.
Philippe Murer, est-ce que vous voulez réagir ou nous parler du patriotisme économique et par exemple de ce contrôle des investissements étrangers que veut instaurer Marine Le Pen en cas d'élection dimanche ?
Oui, ou alors peut-être de l'innovation, parce que c'est vrai qu'on parle rarement d'innovation et en plus de ce capital risque qui permet de faire développer les entreprises nouvelles, les start-up ou les entreprises en croissance, ça peut être du capital risque ou du capital développement. On a une hausse de 30% de la recherche publique et vous vous rappelez les collectifs Sauver la recherche, avec la recherche publique qui est complètement asséchée par la politique d'austérité. On veut aussi augmenter la recherche dans la défense puisque le budget de la défense sera augmenté et on sait que par exemple Internet a été inventé par la défense américaine et tout un tas d'innovations sont inventées par la défense et derrière sont renvoyées dans les entreprises privées. Donc c'est une façon d'augmenter son potentiel de croissance, sa compétitivité, son innovation et dernière première chose, l'État stratège qui va aider. Par exemple, on a l'État stratège pour la transition énergétique. On va essayer de construire des électrolyseurs d'hydrogène qui vont permettre d'alimenter des piles à combustible, puisque c'est sans doute le vecteur énergétique de demain. Donc, vous voyez, on a tous ces champs possibles d'innovation avec l'État stratège, avec le protectionnisme intelligent. C'est avec notre transition énergétique. À chaque fois qu'on construira des panneaux solaires, etc., cela créera, ce sera des panneaux solaires au maximum construit en France, qui permettra de créer de l'emploi avec un cercle vertueux. On pourra réaliser des projets collectifs.
David Amiel.
Non, c'est assez ironique d'entendre parler des 32 milliards sur le capital risque quand, au même moment, ce que prépare le Front National est en fait le plus grand défaut de l'histoire avec la sortie de la France de la zone euro. Donc vous dites à tous ceux qui nous ont prêté, en étant persuadés évidemment qu'il n'y avait aucun risque de change, aucun risque de dévaluation sur la signature française, que demain ils seront lésés de 20%. Vous dites à tous les Français qui ont placé leur argent dans l'assurance vie que demain elle sera mise en grand danger le jour où la dette publique française verra sa valeur baisser, quand on sait la part de l'assurance vie qui est consacrée. Donc évidemment que ce qui se passera le lendemain de la sortie de l'euro, c'est une hausse majeure des taux d'intérêt, une hausse du crédit immobilier, une hausse des taux d'intérêt sur l'innovation, parce que les gens ne prêtent pas immédiatement, en tout cas ils ne prêtent pas au même coût à quelqu'un qui vient de faire de fait défaut sur eux.
Alors là, je trouve que David Amiel, vous êtes un peu jeune pour faire le projet peur, qui est plutôt réservé aux vieux barbons qui veulent bloquer le système. Non, évidemment que non. On a retrouvé d'ailleurs l'article, et les internautes pourront le regarder, 1103, le règlement 1103 de 1997 du Parlement européen, qui explique que toutes les dettes seront transformées du franc, ont été transformées du franc en euros par le fait de la loi monétaire internationale. On utilisera exactement ce même règlement, qui est un règlement européen. Je ne vois pas comment vous allez pouvoir répondre à ça. Je pourrais vous le montrer. Un règlement européen. Un règlement européen. On pourra utiliser exactement ce même règlement européen qui a été utilisé pour que toutes nos dettes soient transformées, ménages, etc. Je vous rappelle d'ailleurs que les investisseurs, c'est un peu fort de café, les investisseurs qui avaient prêté à l'Allemagne, ils sont retrouvés avec l'euro une dette plus faible. Leurs prêts ont été transformés en euros. Est-ce que vous les avez entendus râler parce qu'ils avaient une monnaie plus faible?
Ça devient un petit peu technique et je voudrais quand même, c'est un mot qui est déjà apparu dans le débat, qu'on parle de la formation. C'est l'un des grands chantiers d'Emmanuel Macron, mais c'est pas très très clair dans son programme. Alors David Amiel, est-ce que vous pouvez nous dire quels moyens va utiliser Emmanuel Macron pour mettre, si vous me passez l'expression, le paquet sur la formation?
Mais écoutez, c'est très simple. Après, je répondrai quand même sur l'euro parce que c'est un sujet très important. La première chose, c'est que le problème de la formation professionnelle aujourd'hui, c'est que vous avez sur les 30 milliards d'euros qui sont consacrés, une part très faible qui est consacrée aux chômeurs. Sur la première réforme, qui est de dire qu'il faut mettre le paquet sur les chômeurs, parce que ce sont quand même ceux qui en ont le plus besoin, 15 milliards d'euros sur 5 ans. La deuxième chose, c'est que vous avez une formation professionnelle qui est opaque. Tous ceux qui ont eu affaire peuvent souvent le raconter, avec des formations dont on ne sait pas où elles mènent, on ne sait pas si elles mènent à un emploi, on ne sait pas si elles mènent à une augmentation salariale. Et donc, très concrètement, c'est une réforme majeure de la formation professionnelle, celle qui a été menée en Allemagne également, où vous allez obliger tous les prestataires de formation à afficher très clairement leurs résultats en termes de retour à l'emploi, en termes de progression salariale. Toutes les prestataires de formation qui ne satisfont pas à ces critères devront probablement fermer leurs portes. Je voudrais répondre maintenant sur la question de l'euro. Il est bien évident, un, que cela pose un problème juridique. Monsieur Murer cite le règlement européen. Il oublie que 30 à 50% de la dette privée était mise sur droit international, qu'elle ne pourra pas être convertie. La deuxième chose, c'est que c'est pas seulement un problème juridique, c'est un problème économique. C'est-à-dire que si demain les investisseurs comprennent que le Front National est capable de déterrer des éléments juridiques que tout le monde, tout le monde avait oublié. Quand des gens ont prêté il y a 3 ans à la France, ils ne s'attendaient pas à ce que la France vienne brûler sa propre monnaie. Et ben donc, ils se diront que dans les prochains mois, les prochaines années, votre politique les soumettra à des coups de théâtre aussi spectaculaires. Et donc, ils vous demanderont, avant de vous prêter, des primes de risque, c'est-à-dire des taux d'intérêt très élevés.
Philippe Murer.
Bon, alors, je vais.
Ou peut-être une réponse sur la formation.
Je vais plutôt parler sur la formation. Je vous dis juste, la France n'a pas fait défaut depuis 200 ans, contrairement à l'Allemagne qui a fait 3 fois défaut en 200 ans.
Bon, merci, ce sera une première.
Et donc, j'ai aucune inquiétude là-dessus et les investisseurs prêteront à la France, j'ai vraiment aucune inquiétude.
Alors, même si Marine Le Pen a dit qu'il pourrait y avoir fuite des capitaux et qu'elle s'y préparait.
Oui, mais il y a plein d'instruments de l'État pour gérer, simplement, on ne sait pas les utiliser.
Oui, mais c'est un risque qu'elle a elle-même reconnu.
Non, mais on a plein d'instruments. On peut dire aux gens, bah, si vous mettez votre argent en Allemagne, le temps qu'on négocie sur l'euro, vous serez pas remboursé en marque. À tous les spéculateurs, voilà, il suffit de leur dire ça, vous serez pas remboursé en marque. On
vous donc vous allez geler les retraits aux banques.
Mais non, bien sûr que non. Arrêtez de faire le projet peur, c'est ridicule.
Alors sur la formation, c'est ce qui s'est passé en Grèce.
En Grèce, c'est la BCE qui a étranglé votre Union européenne que vous aimez, qui a étranglé le peuple grec avec une augmentation de 46% de la mortalité infantile, avec une explosion du taux de chômage, avec une 12e baisse du niveau des retraites. Donc, monsieur, défendre cela, je trouve que c'est c'est complètement inhumain. Donc
vous
la
savez,
bienveillance,
Yanis Varoufakis a apporté son soutien à Emmanuel Macron. Je crois que ce n'était pas le premier à défendre les Allemands au moment de la négociation avec la Grèce.
Il a jamais aucun problème avec son pays. Alors sur la formation.
Alors je suis désolé, on va pas avoir le temps, vraiment en 10 secondes.
Dommage. Alors, en 10 secondes, c'est le problème de la formation, il y a plein de jeunes Français qui émigrent, donc le problème de la formation, c'est pas ça qui va faire diminuer le chômage drastiquement. En revanche, pour une fois, je suis d'accord avec vous. Effectivement, il faut réorienter vers la formation, vers les organismes qui font bien leur travail.
Eh ben, on va terminer sur un point d'accord. Merci beaucoup, messieurs. Philippe Murer, conseiller économique de Marine Le Pen, David Amiel, conseiller économique d'Emmanuel Macron. Merci également à Florence Ponce, à Valentin Vaner. Demain, c'est Romain Ouzoui que vous retrouvez pour le débat du jour. On parlera sécurité.